Bonjour à tous. Au micro, Sylvie Ligi, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. Le sommet des peuples pour la paix s'est tenu à Jérusalem les 8 et 9 mai 2025, la semaine dernière, et a réuni plus de 5000 personnes. Cet événement judéo-arabe regroupait plus de 60 organisations israéliennes et israélo-palestiniennes qui travaillent pour la paix et l'égalité. La France y était bien représentée. Jérôme Guège, Aurélie Filippetti, Dominique Potier, Bernard Guetta, Amal Lagrafi, Chloé Ridel et quelques autres faisaient partie de la délégation. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, y était lui aussi. Bonjour Dominique Sopo.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Donc vous avez fait ce voyage à Jérusalem la semaine dernière pour participer au sommet des peuples pour la paix. Racontez-nous.
Alors d'abord, j'ai fait ce déplacement parce que ça me semblait important alors qu'on voit comment la région est traversée par des convulsions absolument stupéfiantes depuis le 7 octobre. C'est important d'aller soutenir celles et ceux qui essayent, malgré les forces adverses, malgré les forces du chaos, que l'on peut voir aussi malheureusement en Israël même et évidemment en Palestine, eh bien de voir des personnes se mobiliser pour faire en sorte que la paix advienne. Et ce sommet a notamment été un sommet qui, la première journée, le 8 mai, a été constitué d'événements un peu en marge du sommet, qui étaient des événements flottants dans la ville de Jérusalem. Et la journée centrale était le vendredi 9 mai, avec une conférence d'ouverture qui a permis à l'ensemble des interlocuteurs qui ont été les initiateurs de ce très beau rassemblement de s'exprimer, de dire ce qu'ils avaient à dire. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments extrêmement forts de personnes qui sont venues dire la nécessité d'arrêter la guerre, la nécessité de faire cesser les armes, la nécessité d'avoir une solution politique à terme pour cette région, et notamment pour purger définitivement ce conflit israélo-palestinien. Et nous avons eu ensuite, dans l'après-midi, toute une série, en début d'après-midi, toute une série d'interventions autour d'initiatives concrètes de paix portées par justement ces associations qui ont initié et organisé cette conférence qui est, je pense, la plus grande conférence populaire, si je puis dire, puisque c'était un sommet des peuples, la plus grande conférence populaire sur la paix au Proche-Orient qui ait jamais existé.
Alors, vous parlez des initiateurs, c'est qui les initiateurs ?
Alors, dans les initiateurs, hein, il y a 60 organisations, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Hein. Nous sommes notamment très en lien avec Standing Together, oui. Une association israélienne judéo-arabe, avec Alon Lee et Roula, qui en sont les deux des grandes figures, mm-hmm. et qui sont des personnes qui justement militent ensemble, refusent les assignations, refusent les barrages, font en sorte d'essayer d'incarner quelque chose du lien possible entre les différentes parties, en l'espèce de la population israélienne. Et ce sont aussi des gens qui ont tenu des positions extrêmement courageuses par rapport à ce que vivent les civils à Gaza, et notamment, par exemple, Standing Together s'est opposé à celles et ceux qui essayaient de bloquer l'aide humanitaire il y a quelques mois qui devait entrer à Gaza. Donc il y a Standing Together, il y a Breaking the Silence, voilà, il y a toute une série d'organisations qui sont engagées depuis longtemps en faveur de la paix, du dialogue. Je pense aussi évidemment au cercle des parents endeuillés qui étaient présents, qui étaient représentés et qui, sont des initiatives qui sont des initiatives de la société civile, bien évidemment, mais qui peuvent avoir un écho politique. D'ailleurs, toute une série de leaders politiques sont venus s'exprimer à la tribune de cette convention, ce qui me semble plutôt bon signe, parce qu'à un moment donné, pour faire la paix, il faut bien que le politique entre dans la danse, oui. et formalise des avancées, des prises de position, des accords éventuellement à signer, des deals à passer pour que la paix elle advienne. Et donc cette articulation entre la société civile et le politique est, on le sait, quelque chose de fondamental quand on veut peser sur le réel.
Voilà, alors je me suis laissé dire que des députés comme Ayman Odeh, qui est un député arabe à la Knesset, comme Gilad Kariv et Naama Lazimi, qui sont dans le nouveau parti, là, les démocrates, oui. L'ancien Premier ministre, Ehud Olmert, et l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Nasser Al-Khouidoua, ainsi que d'autres personnalités ont parlé à la tribune, quoi. Enfin, sur scène, vous les avez entendus? Vous les avez...
Bien sûr, je les ai entendus. Ils étaient dans les salles, puisque après il y a eu des réunions un peu en sous-groupe aussi qui se sont tenues. Mais l'essentiel des noms que vous citez sont des personnes qui sont intervenues dans la salle plénière et qui ont insisté très lourdement sur le fait qu'il fallait mettre un terme à la guerre, parce que c'est ce qui faisait que le calvaire, et même pire que le calvaire, que subissent les populations civiles gazaouis allaient cesser, que les otages qui restent détenus par le Hamas pourraient être libérés, et qu'on mettrait un terme, finalement, à ce cycle du sang qui, depuis des mois et des mois, semble être la perspective indépassable de la scène qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc je pense que les personnes qui étaient présentes sont des personnes qui, évidemment, sont pour le respect des uns et des autres, sont pour une solution à deux États qu'ils ont tous plus ou moins exprimé avec beaucoup de clarté, sont des personnes qui pensent que la solution est évidemment une solution politique et que la poursuite de la guerre, notamment vue du côté israélien, risquait quand même de faire perdre à Israël, à la population israélienne, son âme, d'une certaine façon, en regard du fait que cette conférence pour la paix s'inscrit en plus dans le contexte très particulier du blocage de l'aide humanitaire en direction de Gaza, avec les dégâts que cela peut évidemment occasionner. Et donc là, on est sur des responsables politiques que vous avez cités, des partis arabes, du nouveau parti né de la fusion d'Avoda et du Meretz, aussi un représentant d'ailleurs du parti de Benny Gantz qui a pris la parole, sont quand même, chacun avec leurs mots, chacun avec leurs spécificités évidemment,
Benny Gantz n'a pas été tellement apprécié par la salle, si j'ai bien compris.
Alors, le représentant de Benny Gantz, c'est celui qui a été le moins bien accueilli. Il faut dire que on est aussi sur, de la part des militants pour la paix là-bas, sur de fait une distance assez forte avec Benny Gantz, dont beaucoup de militants pour la paix estiment qu'il n'a pas été à la hauteur de la situation, qu'il n'a pas été assez critique, notamment vis-à-vis du gouvernement Netanyahou, lorsque ce gouvernement, finalement, s'est enferré dans une solution militaire et à couper toute possibilité, ou en tout cas dans le refus organisé d'une solution politique et d'une vision d'un après qui serait un après politique constructif qui permettrait là-bas à ce que les deux peuples aient chacun leur état et que la haine ne soit pas l'horizon indépassable que l'on offre à sa population. Ouais. Donc il est sûr que le représentant de Benny Gantz, qui d'ailleurs est venu avec beaucoup de courage sur scène dire ce qu'il avait à dire et ne s'est pas démonté, est sans doute celui pour lequel le moment était le moins agréable parmi les différents représentants politiques qui ont eu à s'exprimer.
Voilà, et alors, de manière générale, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié au cours de ces deux jours?
Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est, j'allais dire, deux choses. D'abord, moi, je suis un militant antiraciste. Mm-hmm. En fait, entendre des gens qui ont le souci de l'autre, c'est quelque chose qui, quand on est un vrai antiraciste, est quelque chose qui, malheureusement, se perd beaucoup, mais qui doit être cultivé. En fait, je le dis pour la France, mais on pourrait le dire pour là-bas aussi, moi, je suis évidemment extrêmement choqué par ce qui s'est passé le 7 octobre et je condamne les actions terroristes du Hamas le 7 octobre. Je suis choqué de ce que l'on fait subir à la population civile gazaoui depuis le 8 octobre, parce que je pense qu'on est sur une logique de vengeance et certainement pas sur une logique de paix, ou même sur une logique qui aurait des objectifs militaires identifiés. Et là, ben, nous avions cette humanité, finalement, qui résonnait dans la salle, des gens qui demandaient que le cycle de sang se termine et qui ont la ferme conscience que la résolution du conflit ne peut pas passer par l'éradication d'une des deux parties. Et ça, je pense que lorsqu'on est un démocrate, lorsque l'on est antiraciste, c'est quand même un discours de base qui doit retrouver de la force et qui doit à nouveau structurer les consciences. Et le deuxième élément, qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le fait qu'on sent bien que le camp pour la paix en Israël est un camp extrêmement affaibli, qui d'ailleurs ne s'est jamais totalement remis, si on peut dire, de l'assassinat de Yitzhak Rabin il y a 30 ans. On voit bien que c'est un camp qui est extrêmement affaibli et que beaucoup de militants pour la paix avec lesquels je discute depuis des années étaient quand même ces derniers mois dans un état aussi de grand désespoir en disant mais en fait notre monde s'effondre, nos conceptions s'effondrent, notre éthique est prise en défaut parce qu'il est en train de se passer dans la région. Et là, eh bien, j'ai vu des gens qui étaient remobilisés parce qu'ils se rendaient compte que finalement, ils n'étaient pas si seuls que ça, qu'ils n'étaient pas seuls à penser l'autre, qu'ils n'étaient pas seuls à penser la paix, qu'ils n'étaient pas seuls à refuser la haine. Et je pense que cette conférence a aussi eu comme fonction, ce qui m'a fait énormément plaisir, eh bien, de contribuer à reconstruire un camp pour la paix et pour l'égalité en Israël, qui soit un camp dynamique et qui permette eh bien, d'avoir un lien avec les Palestiniens. Et on peut espérer que ce message envoyé eh bien, aura aussi des effets du côté palestinien en disant, tiens, en fait, il y a en Israël des gens avec lesquels il y a peut-être quelque chose à discuter, il y a des mains à tendre pour faire en sorte eh bien, d'aboutir à une situation qui soit une situation non plus conflictuelle, mais une situation de coexistence entre deux peuples qui, de toute façon, ont chacun leur légitimité à être présents et dont aucun n'a à être rayé de la carte.
Voilà. Alors, enfin, je suis ravie d'entendre ces propos, mais j'ai entendu aussi par ailleurs des gens qui disent mais on ne peut pas faire la paix avec les Palestiniens, ils ont tous la haine des Juifs, la haine des Israéliens. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là?
D'abord, quand on fait la paix, c'est qu'on est en guerre. Quand on est en guerre, c'est manifestement qu'il y a de très lourds contentieux. Sinon, en fait, on ne serait pas en guerre. Donc, en fait, on ne fait jamais la paix entre alliés ou entre amis. Quand on fait la paix, c'est qu'on est ennemis. j'allais dire, est-ce qu'on n'a pas réussi à faire la paix avec l'Allemagne en France? Que pensaient les Allemands des Français, comment dire, dans les années 30 et dans les années, même dans les années 40 jusqu'en 45? Est-ce que les conflits les plus complexes, les plus sanglants, n'ont pas réussi à trouver ici ou là dans le monde, je prends l'exemple de la France et d'Allemagne, mais bien d'autres conflits pourraient être cités en exemple, n'ont pas trouvé des résolutions qui font que les peuples ont une intelligence qui les conduit à préférer la pulsion de vie plutôt que la pulsion de mort. Et donc, évidemment qu'il y a des haines qui circulent du côté palestinien vis-à-vis des Israéliens. Évidemment, et d'ailleurs, d'un certain point de vue, parce que je ne vais pas cacher ma pensée sur ce sujet, quand vous vivez à Gaza, qui est une sorte de prison à ciel ouvert, quoi qu'on en dise, qu'est-ce qu'on croit que ça va produire comme effet chez les gens, sinon de la rancœur, sinon de la haine, etc. À un moment donné, lorsqu'il y a des haines, la question c'est comment on ne les nourrit pas, comment on les travaille, comment on trouve dans chacune des sociétés des gens qui sont capables de parler à leur société pour dépasser les haines. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de haine, et on le voit parfois sur les réseaux sociaux, contre les Palestiniens. Vous savez, moi j'étais là-bas, j'ai parlé à toute une série d'Arabes israéliens ou à des Palestiniens, puisque je me suis rendu en Cisjordanie, et des gens, j'allais dire très modérés, hein, des gens qui sont pour la paix, qui sont pour le peuple des États, hein, et qui disaient aussi comment le racisme anti-arabe était un racisme qui s'était déchaîné depuis le 7 octobre en termes d'ambiance, des gens qui ont peur de circuler, qui ont même peur d'aller d'une ville de Palestine à une autre ville de Palestine. J'étais à Bethléem, j'ai voulu me rendre à Bâtir, qui est à 5 km de Bethléem. La personne à qui j'ai demandé d'y aller, il dit « Il est hors de question que j'y aille, même si tu me donnais 1 million d'euros, je ne t'accompagnerai pas à Bâtir. J'ai trop peur en tant que Palestinien d'être agressé par des colons qui se sont installés dans la région depuis, comment dire, en tout cas qui ont accentué leur présence depuis l'été, depuis l'été dernier. Et en fait, il y a trop d'histoires d'agression, je n'ose pas y aller. Oui, et là, on est sur une personne qui, en plus, n'est pas en train de jouer avec moi, hein, puisque c'est une conversation privée. Hein, c'est pas, elle ne se dit pas, tiens, un journaliste, elle va dire ça. Hein.
En fait, ce que vous dites, c'est ça. C'est le problème, c'est avec les colons, mais grâce à ce sommet populaire, en fait, c'est une démonstration. On peut dire que tout espoir n'est pas perdu et que les voies de la paix peuvent être ouvertes.
Exactement.
Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, Dominique Sopo. Merci pour votre enthousiasme et merci pour les valeurs que vous défendez.
Merci à vous.